Je suis avec Hélène Kuchner aux Utopiales à Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Je suis avec vous suite à la sortie chez Calman Levy de votre roman À la pointe de l'épée, qui a été écrit il y a bien longtemps. Qu'est-ce que ça fait comme impression d'avoir une sortie maintenant en France ?
C'est incroyablement bon. Je l'aime bien, car il y a bien des années que c'est publié aux États-Unis et ça faisait en cette fois une petite bruit. Et puis il y a bien des années qui se passent, mais j'adore cette livre. Et il y a des autres livres en anglais après ça, qu'il s'agisse des caractères et du monde. Mais en France, ça commence encore une fois, c'est qu'on peut-être rené. C'est une renaissance actuelle pour moi, je suis ravie.
Ce roman a été écrit au départ comme le début d'une trilogie, ou est-ce que c'était juste un one-shot et après il y a eu des cycles, enfin après le cycle a continué?
J'ai compté que ça soit être un one-shot, absolument. On m'a demandé immédiatement, et la suite, quelle est la suite? Et je disais, ben, je ne veux pas me répéter comme un artiste. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a eu la peste par toute la ville et ils sont toutes mortes. Alors, après ça, il y avait un an qui passait, 2 ans qui se passaient, et je réfléchissais, mais qu'est-ce qui arrivait bien aux gens là? Et est-ce qu'on peut encore écrire quelque chose selon ces gens sans se répéter? Donc j'ai fait une petite nouvelle qui s'agissait de Richard et de Alec, qui s'appelait le bretteur dont le nom n'était pas la morte. Je crois que c'est mieux traduit sur l'internet, mais bien c'est ça, qui prenait un petit coin de leur caractère dont je n'ai pas parlé dans le roman. Et puis après ça, j'ai pensé un petit de plus et j'ai pensé s'il y aurait une jeune fille, pas tout à fait comme les autres caractères de La Pointe de l'Épée, qui regardait tout ça. Vous savez bien que les jeunes filles, elles ont leurs idées, ils sont très différents. Pour voir tout ce qui arrive à la pointe de l'épée avec une lentille de la caractère, la vision, dirait-on, d'une jeune fille. Donc j'ai écrit un autre roman aussi qui s'appelle La privilège de l'épée. Alors c'est comme ça que j'ai dit toujours non, je ne vais pas écrire une autre. Et puis je pense un peu, je réfléchis. Et je dis, mais une petite chose, une petite histoire, je peux faire ça. Alors, enfin, il y a beaucoup des autres.
Ce roman nous fait vivre, en fait, l'activité de bretteur de Richard, qui donc a comme compagnon Alec et un étudiant pas très assidu, apparemment. Cette passion pour les épées, les duels, ça vient d'où?
Il y a plusieurs influences pour ça. J'ai plein d'influences, surtout les livres, les autres livres avec les épées, et puis aussi l'histoire. J'aimais toujours ça, je ne peux pas vous dire pourquoi. Au début, quand j'étais petite, j'aimais bien les contes de fées. Il n'y a pas trop d'épées là-dedans, mais parfois il y en avait. Puis l'histoire. En Amérique, vous savez bien, il n'y a pas cette grande tradition de cap et d'épée. C'est pas ça. Il y avait parfois des films, mais pas trop. Mais il y avait un film qui m'a bien influencé, et ça, c'est Les Trois Mousquetaires de Richard Lester. Les autres, je les trouve très très mauvais. Mais Richard Lester, il a bien réussi en capturant l'esprit, je crois, de Dumas. J'ai pas lu du Dumas avant ça. Mais la mix de histoire, des caractères incroyables et de l'humeur aussi. C'est un peu comique en même temps que ça soit bien sérieux. J'aimais bien ça. Aussi, il y avait aussi des autres romans bien connus à l'Angleterre et aux États-Unis, mais pas connus du tout en France. J'ai déjà demandé à plusieurs gens et personne ne les connaît. Alors, mais il y a des très bons romans historiques, qu'il s'agisse du XVIe siècle en Europe et au XVIIIe siècle et au XIXe siècle en Angleterre. Ça a été très important pour moi. Et enfin, il faut bien vous avouer, les pièces de Shakespeare, qui ont bien des épées aussi.
Comment est-ce que vous avez travaillé sur l'histoire? Est-ce que vous avez fait des recherches historiques avant de vous plonger vraiment dans l'écriture, ou est-ce que vous avez fait un premier jet d'histoire pour après retravailler justement sur la façon de tenir son épée, sur...
J'ai lu tellement de livres historiques et cap et épée, quoi. Je connaissais déjà beaucoup de choses. Et aussi, je faisais beaucoup de voyages en Europe, surtout en France. Donc, c'est pas que je suis experte, mais il ne faut pas avoir d'expertise sur la page. Si on connaît beaucoup de choses, on mélange comme une grande soupe et on tire ce qu'on veut manger de cette soupe. Et c'est pour, c'est avec ça que j'ai fait le livre. J'ai fait, enfin, c'est-à-dire que toute ma vie, c'est la recherche. Et quand j'ai commencé à écrire, je savais assez. Bien sûr, il y avait des petits points où je devais chercher quelques petites facts dans ce livre. Il y a une banquette sur l'eau, sur une barge, en hiver. Moi, je ne pouvais pas faire la menu. Donc, j'ai demandé à une amie qui est très, très bonne cuisinière et qu'elle connaît bien aussi... la cuisine et aussi la cuisine historique. Et elle m'a proposé un menu pour Diane de Trémontaine et ses invités. Et j'en ai déjà dans une tiroir, cette petite menu. Et toutes les plats n'apparaissent pas dans la scène, dans le livre, mais ils existent, je vous assure.
On ne sait pas trop où se passe justement l'histoire, parce qu'il y a le quartier des Bordeaux où vit Richard Saint-Vierre avec tous les, on va dire, pas les voleurs, mais ça a l'air d'être un petit peu les bas-fonds. Et à côté, il y a la colline, mais on ne sait pas dans quel pays on se retrouve. C'est volontaire, c'est pour avoir une possibilité de se mettre un peu n'importe où et toucher le lecteur, ou est-ce que vous aviez une idée d'endroit?
Ah non, c'est un pays que j'ai créé moi-même. C'est une mix donc de l'Europe et enfin aussi des périodes différentes. Et aussi un peu de New York, à cette époque où je vivais à New York, dans un lieu qui n'était pas très très gentil. Et c'est l'esprit de ça aussi qui existe dans ce livre. Mais je voulais bien que ça ne soit pas une région historique. Et vous savez bien que dans le livre, les règles du jeu sont un peu différents que celles de l'Europe, n'importe quelle période.
Quelle est la partie de vous-même que vous avez mis dans les personnages, s'il y en a?
Il y a beaucoup de moi dans tous les personnages, même aux méchants. Et je manque la langue pour vous expliquer comment. Je peux essayer, mais... Alors, Alec, c'est bien moi. Il aime bien parler et il aime bien que ses mots précipitent quelque chose. Et il a grand peur du violence. Vous savez, c'est évident, il a grand peur du violence. Mais il attaque quand même. Ça, c'est pas moi. Bon, parfois c'est moi aussi. C'est pas parfois. Mais ce que Alec a, que moi je n'ai pas, c'est un bretteur pour combattre tout le monde pour lui. Alors c'est un désir peut-être. Et aussi, il est très jeune, Alec, et moi, quand je commençais cette œuvre, j'étais très jeune. Donc, quoi d'autre? Le méchant, le Lord Horn, il est très égocentrique. Et moi, quand je suis absolument vilaine, je suis comme ça. Puis Michael Godwin, il est jeune et il veut bien faire une jolie présence dans le monde. Et... à New York, à ce moment, moi aussi, j'étais un peu comme ça. Parfois, je reconnais des gens que je suis devenue après des années. Quand j'ai écrit ce livre, on me disait, il y avait un ami qui disait, « Oh, mais c'est évident que tu es deux de vos caractères, surtout. » Je disais, « Ah bon, lesquels ?» Il disait, « Richard de Saint-Vierre et la duchesse de Trémontaine. » Et moi, je lui ai regardé et je dis, « Non ?» Absolument pas, ni l'un ni l'autre. Ils sont les deux qui semblaient plus éloignés de moi. Pourquoi dis-tu ça? Il dit, Richard, c'est l'héros, évidemment, c'est toi. Ah ben non, je ne suis pas comme du tout comme Richard. Je crois qu'il est le plus loin de moi. La duchesse de Trémontaine, bon, j'ai dit, bah non, je ne suis pas comme ça du tout. Elle essaie de contrôler des gens, de faire des petites intrigues. Moi, je ne fais jamais rien comme ça. Alors, moi, je suis maintenant un peu plus âgée. Je ne fais pas très bien les intrigues, en cœur, mais je reconnais que j'aime beaucoup que tout le monde fait ce que je veux pour être heureux, bien. pas pour faire les politiques, mais je crois que je suis, comme on dit que quand on grandit, on devient un peu plus comme maman, ou bien papa. Moi, je suis devenue un peu plus comme la duchesse, malgré moi.
Ces deux personnages, Richard et Alec, sont vraiment opposés, puisque vous disiez Alec aime bien provoquer, mais en même temps il aime pas la violence. Quand il est kidnappé, il est prêt à tout raconter pour justement pas souffrir. Et à côté de ça, Richard, lui, il est prêt à tout, il se bat, c'est son quotidien. Et en même temps, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très gentil, il est prêt à tout pour Alec. Ce qui est presque surprenant, parce que ça devrait être lui, le dur, l'agressif, et pas du tout. Ça s'est fait par hasard ou est-ce que c'est une volonté justement d'avoir des caractères en opposition qui finalement fusionnent et vivent ensemble?
Non, moi quand j'écris avec pas trop de théories. J'ai pas beaucoup de théories. J'écris ce que j'écris, je vois ce que je vois, j'écris ça, j'imagine ce que j'imagine et puis ça arrive. Et après, on peut faire la théorie et l'analyse. Maintenant, je peux faire tout ça et décrire tout ça, mais quand je l'ai écrit, non, j'ai rien pensé à ça. Même, j'ai écrit le caractère de Michael Godwin. Au début, c'était un caractère qui n'avait pas grande place dans l'histoire. Il a échappé un amant et une amante et a tombé dans la carrosse de Lord Horn, car il me fallut un caractère qui doit se battre contre Saint-Vierre un peu plus tard dans le roman. Mais il m'intéressait, je l'ai suivi, et puis ils avaient une histoire pour soi-même dont je n'ai pas compté. Et après que j'ai écrit le livre, j'ai vu que, voilà, Michael, il est l'opposé de Alec. Ils sont presque de la même famille, mais Alec a fait des choix absolument contraires de ceux de Michael. Alors ça, c'est très intéressant, mais quand j'écrivais, je n'ai rien pensé de ça.
Sur la construction du roman, vous avez les scènes de, on va dire, vie quotidienne, intrigue politique, et les scènes de combat. Vous aviez choisi de ne pas mettre trop de l'un ou trop de l'autre, ou pas, ou est-ce que vos personnages, il y a certains auteurs qui disent ça, vivent d'eux-mêmes, et du coup, après, l'écriture vient en fonction de la volonté des personnages eux-mêmes?
Ce qu'il faut savoir, selon écrire un roman, c'est qu'on fait toujours la réécriture. C'est un mot français, réécriture. Oui. Bon, et c'est dans la réécriture qu'on fait les choix artistiques et puis artisanal, quoi. Alors, pour la première fois que j'ai écrit ce roman, je ne sais pas comment se passaient toutes ces petites scènes, mais en le récréant, j'ai regardé avec la vue d'artisans et je disais, est-ce que c'est trop ennuyant d'avoir deux scènes comme ça, l'un après l'autre, alors bon, je vais changer pour que ça suit une scène très différente. C'est un peu comme composer de la musique, ou bien si on est musicien, peut-être chanteur, on a 15 chansons. On chante pas toutes les chansons lentes au début et puis elle est vide. Il faut changer un peu pour faire une, on dirait en anglais un set assez excitant. Et aussi quand on écrit un roman, on veut bien que le lecteur veut toujours savoir qu'est-ce qui va passer. Et c'est très difficile de faire ça quand on fait une fantasy, car il faut toujours introduire des choses de nouveau parmi l'action. C'est vraiment, c'est comme on est en cirque, faisant jonglage, c'est ça. Il faut jongler tout ça pour tenir au cher lecteur un roman qui est satisfait. Et aussi qui a l'air d'être la réalité. J'ai cru quand vous me demandez, il y a des avec les politiques, les duels, tout ça. J'ai cru que vous me demandiez pourquoi tout ça en mélangé. Et je pourrais vous dire bien que c'est pour donner de la réalisme au monde et au livre aussi. Que évidemment, il y a des gens qui écrivent la fantasy et ce sont toutes les noirs, les elfes et les dragons et personne ne mange rien. Il n'y a pas de réalisme, vraiment, dans ces livres. Alors moi, j'essaie dans mon livre de vous donner l'impression qu'on était vraiment dans un monde qui pourrait bien exister. J'essaie. Le succès, c'est à vous à me dire, mes chers lecteurs.
Si, c'est vrai que en le lisant, ça pourrait très bien être les mémoires de tel personnage historique ou renommé. Enfin, c'est vrai qu'on retrouve des choses qui auraient pu se passer, comme vous disiez, à New York ou même à Paris ou à l'époque.
Oui. Oui, je veux bien que ça soit comme ça. Alors, et tout le monde me demande, et peut-être vous irez me demander aussi, pourquoi c'est fantasy, car il n'y a pas de magie. Oh, c'est pas. Je l'ai écrit comme ça, et j'ai bien compté que personne ne va le publier. J'avais grande peur de ça, mais enfin, ça doit être que ça doit être. Bon, c'est publié aux États-Unis comme fantasy, et tout le monde était un peu bouleversé. Et il y avait un côté qui disait « Mais c'est pas du fantasy, ça, je le déteste. » Ou bien, ce n'est pas du fantasy, mais ça me prend comme un fantasy. Ça me donne du plaisir comme un fantasy, alors n'importe quoi. Et des autres qui disaient « Ah voilà, c'est une notion radicale, que c'est du fantasy sans du magie. Ça, c'est incroyable !» Alors, amusez-vous bien, je dis. Mais une amie, elle a la description parfaite. Elle dit, c'est un roman historique d'une ville imaginaire.
Est-ce que ça vient du fait que vous faites partie d'un courant artistique assez particulier qui place les choses, j'ai lu ça en anglais, donc in the betweenness?
Oh, interstitial.
Si, vous pouvez nous en parler un petit peu?
D'accord, oui. Interstitial arts, qui je crois en français, ce sont les interfictions. On dirait. Attendez, car M. Berthelot a fait un joli livre, une jolie théorie qui est à peu près comme ça. Mais c'est un peu à cause de Sword Point, à la pointe de l'épée, apparaissant aux États-Unis, et tout le monde était très très confus, que j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il a alors? Qu'il faut absolument avoir des petites boîtes de genre hein, où on ne peut pas publier. On peut pas lire sans ces petites boîtes, mais c'est bête ça. Et j'avais aussi des amis qui publient des livres ou bien qui ne pouvaient pas publier des livres. Des musiciens que je connais, c'est toujours la même. C'est quelle boîte, c'est quel genre. C'était incroyablement gênant pour tout, pour les artistes bien, mais aussi pour les lecteurs, pour les auditeurs. Pourquoi faut-il toujours trouver les petites boîtes? Pourquoi pas qu'on peut trouver la musique, les romans, sans ces genres, sans ces petits tickets? Bon, alors nous sommes venus ensemble chez moi, dans ma petite salle, à Boston, et nous avions un petit, toute petite convention de 10 personnes, et on disait, voilà, on va faire interstitial arts, c'est-à-dire les arts qui vont dans les interstices, qui vont entre les petits tickets. Et puis c'est né Interstitial Arts Foundation. Ça existe à l'internet, c'est interstitialarts.org. O-R-G. Ou bien vous allez à ellenkushner.com et vous suivez les liens.
Vous nous parlez un petit peu de musique depuis le début. J'ai envie de vous demander quelle serait la bande-son à écouter en même temps qu'on lit à la pointe de l'épée.
La première réponse que je peux vous donner, c'est la musique de Richard Thompson. C'est un musicien anglais qui vit maintenant aux États-Unis, qui était, quand il était très très jeune, il était dans une groupe électro-folk qui s'appelait Fairport Convention. Lui, c'était le guitariste, il est très très fameux. Et puis, quand il grandissait, il faisait des albums avec son épouse Linda Thompson. Alors, Richard and Linda Thompson, et le CD, maintenant c'est un CD, s'appelait Shoot Out the Lights. Et j'écrivais Sword Point, bon, j'ai conduit partout aux États-Unis avec un ami qui avait des cassettes. Il mettait cette cassette dans la voiture et j'ai entendu ça et je disais, mais voilà, c'est mon roman en chanson de rock. C'est incroyable ça. Alors ça, il y a peut-être 20 ans, mais c'est super. Il y a du violence, il y a... bon, je ne peux pas décrire, il faut écouter. Et si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas Richard Thompson, il est super, super, c'est incroyable, comme guitariste, comme écrivain de chansons. Alors ça, c'est le premier. Après ça, aussi, ce qui est un peu comme mon livre, c'est la musique qui a écrit Prokofiev pour le ballet de Roméo et Juliette, car c'est en même temps assez moderne et un peu ancien. Et il y a beaucoup, comme c'est Roméo et Juliette, il y a des duels, des combats, de l'amour grand et une très grande ville que Prokofiev recréé par la musique. Et quand j'entends ça, je dis, ouais, voilà, ça c'est à moi aussi. C'est une jolie petite question, on ne m'a pas demandé ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des deux autres romans qui sont publiés donc, aux États-Unis, qui sont la suite de À la pointe de l'épée? Quel personnage on retrouvera à l'intérieur?
Après, À la pointe de l'épée, aux États-Unis, il y a un livre qui, en français, c'est la privilège de l'épée. Alors, à la pointe de l'épée, et la privilège de l'épée. Et ça s'agit de cette jeune fille de 15 ans, 16 ans, qui est la nièce d'Alec à la pointe de l'épée, et qui vient peut-être 15 ans après les événements à la pointe de l'épée, elle vient à la ville pour rencontrer son oncle. Et il devient enfin bretteur soi-même. Mais elle ne veut pas être bretteur. Alors ça, c'est l'histoire du livre. Après ça, il y a ce que j'appelle en français la chute des rois. En anglais, c'est The Fall of the Kings. Et ça s'agit des enfants des gens de South Point, à la pointe de l'épée. Il y a quelques gens à la pointe de l'épée qui sont très très âgés et dans cette livre. Il y a des autres qui sont déjà des légendes. Mais c'est la même ville, la ville a changé un peu. Les gens, ils ne changent pas.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de l'illustration qui a été faite par Alain Brion pour votre roman? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu un droit de regard avant ou est-ce que c'est l'éditeur qui a tout choisi?
C'est l'éditeur qui l'a tout choisi et je l'embrasse. C'est formidable, c'est super, super cette illustration. Je crois qu'il a vraiment l'esprit du livre et l'esprit même de Saint-Vierre. J'ai beaucoup d'illustrations sur cette livre et je les aime tous, mais ça, je crois que je trouve le meilleur.
Vous voulez nous dire un petit quelque chose d'autre sur vos projets peut-être actuels, parce que vous êtes en train d'écrire quelque chose ou...
Ce qui est le plus important pour vous, je crois, c'est est-ce que j'ai d'autres choses en français? Bon, j'en ai. Il y a peut-être six ans avant de maintenant qu'on a traduit Thomas le Rimeur. Ça, c'est très, très différent. À la pointe de l'épée, c'est très violent, c'est très urbain. Thomas le Rimeur, c'est très mythique. Il y a vraiment du magie là-dedans. Et il y a beaucoup de musique. Et c'est marrant, car moi-même, j'ai fait des émissions de radio aux États-Unis qui sont bien à Internet. Si vous suivez les liens de HélèneKushner.com, on peut écouter 120 programmes que j'ai faits selon la musique, la mythe, le folklore et toutes les choses... humaine, bien, c'est pas seulement la mythe et la musique. Alors je me demandais, tu fais la musique au radio, pourquoi il n'y a point de musique dans À la pointe de l'épée? Donc j'ai fait un petit roman dans la rumeur qui s'agit d'un musicien. Voilà. Et aussi, il y a quelques petits journaux de fantasy où on a traduit des petites histoires, des petites nouvelles. Et là, que je me souviens maintenant, à 7h du matin, c'est Fairy, je crois. Il y a une petite histoire qui commence en Nantes. C'est aussi un roman historique, mais un roman... non, c'est pas un roman encore, c'est une nouvelle. Ce sont une série de nouvelles dont un est traduit en français et ça commence... Baron... Et maintenant à Nantes. Alors ça s'agit du monde historique, mais avec un peu de magie là-dedans. Je crois que c'est tout, mais je crois que je me trompe, qu'il y a encore des autres, car André-François Ruot, qui fait la mouton électrique, vous connaissez ça? Oui, je crois qu'il a aussi fait une traduction, sinon c'est une traduction d'une de mes amies.
Pour retrouver votre actualité, le plus simple, c'est votre site internet, helenekuchner.com.
Oui, c'est ça. Et vous suivez la liane de radio. Ça vous rend au site du radio, de l'émission même, qui s'appelle Sound and Spirit. Et puis vous suivez, voilà, c'est Helen Kuchner, radio, programme alphabétique. Et vous aurez une très grande liste de programmes avec des petites descriptions. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.